RTL Info.
Le journal Jean-Paul Pitchy.
Bonjour, bonne nouvelle pour les automobilistes. Le chantier du pont du Manège à La Chaux-de-Fonds est à bout touchant. Les rues du Crêt et du Manège rouvrent demain avant une nouvelle fermeture en août. Retenez ce nombre, le 10. Il résume les bons résultats de l'horlogerie suisse au premier semestre 2018. Les exportations sont en hausse de plus de 10% par rapport à la même période l'an dernier. La valeur des montres livrées atteint 10 milliards de francs. C'est un mythe qui se dresse face aux cyclistes du Tour de France. La 12e étape de la Grande Boucle mènera cet après-midi le peloton au sommet de l'Alpe d'Huez. La journée s'annonce belle avec pas mal de soleil dans le ciel de la région. Des cumulus vont bourgeonner, mais le temps devrait rester sec. Il fera chaud avec 26 à 31 degrés au maximum. Un navigateur de 72 ans a été retrouvé mort hier dans le lac de Neuchâtel près de Grandson. Son voilier inoccupé avait été découvert 2 heures plus tôt près de Chezeau-Noréa, toujours sur territoire vaudois. Le bateau échoué a été remarqué vers 15h25. Personne ne se trouvant à bord ni à proximité immédiate. D'importants moyens ont été mis en place pour retrouver son pilote, indiqué ce matin la police vaudoise. C'est à proximité de Grandson que la victime a été retrouvée vers 17h20. Domicilié dans la région, l'homme était déjà décédé et les secouristes n'ont rien pu faire. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que l'embarcation dont les voiles étaient hissées était en mode pilote automatique. Quant aux causes du décès, elles ne sont pour l'heure pas connues. C'est bientôt la fin de l'enfer pour les automobilistes qui traversent La Chaux-de-Fonds d'est en ouest. Le chantier du pont du Manège est presque terminé. Les rues du Crêt et du Manège seront rouvertes à la circulation demain soir pour une durée de 3 semaines avant une nouvelle fermeture d'une quinzaine de jours. Le gros du chantier avait eu lieu en 2017, mais il a fallu remettre la compresse cette année. Nicolas Monin, responsable du secteur génie civil pour la ville de La Chaux-de-Fonds.
Principalement, les travaux de cette année ont consisté à la réalisation ou l'assainissement des infrastructures, notamment de la conduite d'eau, conduite de gaz, des travaux au niveau de l'électricité, aussi collecteur communal à certains endroits. Et puis on a profité donc d'assainir en fait la partie sud de la chaussée qui n'a pas été touchée par les travaux l'année passée.
Pourquoi est-ce que ce chantier a dû se dérouler sur 2 ans ?
Alors, on était assez court l'année passée. On attendait une autorisation de l'Office fédéral des transports pour pouvoir lancer les travaux. Donc, on a démarré le chantier assez tard, début juillet. Donc, on était très serré en fait pour terminer les travaux l'année passée. On a réussi à rendre la circulation, mais en ayant posé en fait une couche de revêtement provisoire au niveau de la dernière couche, donc la couche de roulement.
Des propos recueillis par Myriam Videvert. Le tronçon sera refermé après le marché concours de Seignes-Légier le 13 août pour une durée maximale de 2 semaines. Cette fermeture doit permettre la pose de la couche de roulement, des travaux qui auront lieu de nuit pour ne pas perturber la circulation des trains DCJ. On la déguste régulièrement au petit déjeuner, mais on oublie parfois qu'elle est typiquement neuchâteloise. La taillole est le 4e produit du terroir à l'honneur dans notre série d'été cette semaine. Après la viande, le fromage et le poisson présentés en début de semaine, ce pain, avec ou sans raisin, fait la fierté des boulangers de la région. Présentation avec Francis Grandjean, co-auteur d'un livre de recettes sur les produits du terroir neuchâtelois.
La taillole neuchâteloise est sans aucun doute un pain qui existe depuis fort longtemps. Il était surtout cuit dans les fours de la ménagère, parce que dans le temps, il y avait les ménagères préparaient leur pain eux-mêmes, mais ils avaient des fours pour ce genre de préparation. Et la taillole neuchâteloise est faite de farine blanche. C'est un pain qui contient du beurre. Il ne faut pas exagérer non plus dans la quantité qu'on veut mettre pour vouloir faire meilleur. La taillole neuchâteloise est connue. On peut l'acheter avec ou sans raisin, d'ailleurs. Elle a cette particularité avec les petites pointes de pâte qui la garnissent sur le dessus. C'est probablement de là que vient le mot taillole, taillé. Je crois que c'est taillé avec des ciseaux. Donc, ça donne cette particularité. C'est bien entendu doré à l'œuf. Et ça donne cet aspect brillant et très gourmand, je dirais. Surtout utilisé comme pain du petit déjeuner et surtout le dimanche matin, du moins dans le temps.
Un sujet signé Léona Reichen, direction la vigne demain pour notre dernier produit du terroir. Ce sera l'œil de perdrix. L'horlogerie suisse retrouve des sommets. Les exportations ont franchi la barre des 10 milliards de francs sur les 6 premiers mois de l'année. C'est 10,52% de plus que pour la même période l'année dernière. Un tel seuil n'avait plus été atteint depuis 2015. Les affaires sont si bonnes que la prévision pour cette année est revue à la hausse. Les précisions de Gabriel Devecq.
10 milliards de francs d'exportation, ça signifie que l'horlogerie suisse a expédié 11 700 000 montres à l'étranger. En termes de valeur, 8 francs sur 10 proviennent des montres mécaniques, de quoi compenser le recul des montres électroniques. Au niveau des segments de prix, la demande la plus forte concerne les garde-temps entre 500 et 3 000 francs. Au-delà de 3 000 francs, la hausse reste solide. Quant aux montres de moins de 200 francs, elles ne sont pas à la fête, mais maintiennent leur valeur à l'équilibre après 2 ans de baisse marquée. Concernant maintenant les marchés. C'est l'Asie qui a monopolisé la croissance, selon les termes de la Fédération horlogère suisse. 30% d'exportations en plus à Hong Kong, à 1,5 milliard de francs, et même 34% de livraisons supplémentaires en Corée du Sud, à 500 millions. La Chine, le Japon et la Thaïlande ne sont pas en reste. En Europe, c'est la France qui se distingue, étonnamment, selon l'AFH, avec une croissance des exportations de 17%. Seule ombre au tableau, l'évolution négative des marchés au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne.
Les smartphones sont mauvais sur le développement de la mémoire chez les jeunes. Les champs électromagnétiques à haute fréquence des téléphones mobiles peuvent avoir des effets néfastes sur le développement de la mémoire dans certaines zones du cerveau. C'est ce qu'indique une étude du Suisse TPH qui porte sur 700 jeunes en Suisse. Une nouvelle alliance voit le jour pour soutenir le domaine des médias et des technologies de l'information. Le PFL, les universités de Neuchâtel, de Genève et de Lausanne, la SSR et Ringier ont créé l'initiative pour l'innovation des médias. Les membres veulent jeter un pont entre le monde des médias et celui de la recherche académique. Ils sont convaincus que l'interdisciplinarité est une des clés de l'innovation. Va-t-on vers une opposition frontale entre cantons riches et cantons aux capacités financières faibles? Deux dossiers financiers chauds risquent de raviver l'adversité à l'automne. La réforme fiscale PF17 et surtout l'adaptation de la péréquation financière intercantonale. Les premières banderies sont lancées cette semaine dans la presse alémanique par le ministre Zougois des Finances qui évoque une Valais-Jura Connection pour faire échouer le projet. Il accuse ces cantons pauvres de s'en prendre à la cohésion nationale. Explication à Berne avec Serge Jubin.
L'attaque de Heinz Stenler, ministre délégué des Finances du canton de Zoug, dans le Tagesanzeiger, est virulente. Il soupçonne les cantons financièrement faibles de vouloir faire capoter le projet révisé de RPT, la péréquation fédérale, et lui-même menace de boycotter les conférences intercantonales. Les cantons qui se sont opposés au compromis de nouvelle RPT ou se sont abstenus veulent-ils réellement faire échouer le programme? Le conseiller national PDC valaisan Thomas Seger apparaît comme putschiste en chef parce qu'il a déposé un postulat sur le sujet. Écoutez-le.
Ça, c'est vraiment exagéré. On ne veut pas faire capoter la réforme de la péréquation financière, mais on veut avoir des bases de discussion qui sont sereines et qui nous orientent vers le long terme. C'est ce que j'ai demandé aussi dans un postulat, c'est d'avoir une vision sur les années 2020 à 2030. On a deux dossiers qui sont en même temps sur le tapis. La péréquation financière et la réforme de la fiscalité, le fameux projet PF17. Et si on voit les effets cumulés, c'est ça qui nous fait peur un petit peu. Si on voit uniquement pour le cas du canton du Valais, nous, on va perdre à peu près 150 millions de francs. On fait des mesures transitoires sur 6 années ou 7 années, comme ça c'est moins grave, etc. Quand il n'y a plus de mesures transitoires, c'est ça qui devient dangereux.
Le diable se cache comme de coutume dans les détails du projet de nouvelle péréquation, la principale pierre d'achoppement. La Confédération prévoit de réduire de 280 millions sa contribution au pot confédéral. Les cantons sont là unanimes pour s'y opposer, mais ils ne sont pas d'accord sur la manière de se redistribuer ce montant, surtout sur la durée. Est-ce que, comme le lance le Zougois Heinz Stenler, la cohésion nationale est menacée? On retrouve Thomas Seger.
On dit toujours qu'on veut renforcer la collaboration entre villes et campagnes. Sur le papier, à l'allocution du 1er août, ça sent toujours bien. Mais après, quand on discute sur des choses très concrètes, surtout sur l'argent, c'est là que tous ces fossés s'ouvrent. Et il faut rappeler quand même que si on regarde les chiffres de la péréquation financière, le plus grand contributeur, bien entendu, c'est Zouk. Mais avec toutes les réformes qu'il y a eu, avec tous les paiements qu'ils ont dû faire, ils sont toujours à peu près 3 fois plus importants en force économique que tous les cantons autres.
Le projet finalisé de nouvelle RPT sera dévoilé par le Conseil fédéral en septembre. Les débats aux chambres débuteront lors de la session d'hiver.
Dans l'actualité à l'étranger, un proche d'Emmanuel Macron dans le viseur de la justice française. Le parquet de Paris a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête préliminaire après la diffusion d'une vidéo qui montre un collaborateur du président français frapper un manifestant le 1er mai à Paris. Cette enquête a été ouverte pour violence par personne chargée d'une mission de service public, usurpation de fonction et usurpation de signes réservés à l'autorité politique. Le journal Le Monde a identifié Alexandre Benalla, l'actuel adjoint au chef de cabinet d'Emmanuel Macron. La police britannique pense avoir identifié les suspects de l'empoisonnement au Novichok de l'ex-agent double russe et de sa fille. Les enquêteurs y seraient parvenus grâce à des caméras de surveillance dont ils ont comparé les images avec les dossiers des personnes qui sont entrées dans le pays à cette époque. Selon une source proche du dossier, ils sont sûrs qu'ils sont russes. Scotland Yard n'a toutefois pas confirmé l'information et s'est refusé à tout commentaire.
Il est 12h26.
Sport. Mission accomplie pour Pauline Brunner. La Chaudefonnière a gagné sa place dans le tableau final des championnats du monde d'escrime à Wuxi, en Chine. Un tracé mythique attend les coureurs du Tour de France. La 12e étape de la Grande Boucle va mener les cyclistes de Bourg-Saint-Maurice à l'Alpe d'Huez. Le peloton pédalera sur un parcours de plus de 175 km. Ce troisième jour alpestre a la particularité de proposer trois cols classés hors catégorie, dont l'arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez. Sur la route du Tour, la présentation de cette 12e étape est signée Fred Adam.
La paix des braves ou la guerre du clan, que nous réserve cette troisième étape alpestre qui s'achèvera tout à l'heure à l'Alpe d'Huez au terme de la mythique ascension et de ses 21 virages. Au lendemain de la prise de pouvoir du gallois Geraint Thomas dans la station de la Rosière, les Sky seront à la barre, c'est sûr, pour assumer le poids de la course comme ils en ont parfaitement l'habitude. Mais tout le monde scrutera l'attitude du duo Thomas Froome, susceptible de se livrer une guerre fratricide. Les coéquipiers britanniques scelleront peut-être une union sacrée, mais la course s'occupera d'asseoir les rôles ou de rebattre les cartes. Le menu du jour comportera du lourd, du très lourd, avec entre Bourg-Saint-Maurice et l'Alpe d'Huez pas moins de trois ascensions hors catégorie. Le col de la Madeleine, long de 25 km, puis les lacets de Montvernier, tremplin vers la Croix de Fer, escaladé sous le regard des aiguilles d'Arves, qui proposera près de 30 km d'ascension, avant de rouler 11 km dans la plaine pour attaquer la montée finale vers l'Alpe d'Huez dans ce marathon de 175 500 km entre Savoie et Isère. Il y aura sans doute deux courses dans la course, celle pour la victoire d'étape et celle pour le classement général avec la surpuissante Sky pour régente, vous l'aurez compris.
Retour au bercail pour Shani Tarachai qui rejoint Grasshopper. Le footballeur de 23 ans a été prêté pour une saison par son club anglais d'Everton. L'attaquant, présent dans le cadre de l'équipe de Suisse lors de l'Euro 2016, a été formé à Getse. Il avait quitté les Sauterelles pour 4,5 millions de francs il y a deux ans.
Quelques nouvelles du ciel et de la route. Et puis, c'est le meilleur de la musique qui vous est prévu, spécialement concocté pour vous. À 16h, vous avez rendez-vous avec Yannick. L'été dans le ciel de la région, une belle journée bien ensoleillée, quelques cumulus qui pourraient éventuellement lâcher une ou deux gouttes sur les reliefs. Mais bon, Météo News ne semble pas miser beaucoup sur ces éventuelles averses. Le temps devrait rester sec dans l'immense majorité des régions. Les températures sont encore un poil plus chaudes qu'hier, avec 26 degrés cet après-midi à la Chaux-de-Fonds, au Locle, 28 degrés dans le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers et même 30 degrés sur le littoral neuchâtelois, dans la Broye et dans le Nord Vaudois. Pour demain, toujours des températures élevées, 26 à 30 degrés à nouveau, du soleil, oui, mais surtout le matin. L'après-midi, les cumulus vont cette fois nous donner des orages. L'ambiance sera lourde. Des orages qui pourraient d'abord éclater sur les reliefs avant de concerner toutes les régions en fin d'après-midi et à l'approche de la soirée. La nuit de vendredi à samedi ne s'annonce pas très calme avec le passage d'une dégradation pluvio-orageuse. Des orages localement violents, la grêle pourrait être de la partie également. Du coup, samedi, la journée va être un peu grise, un peu humide et surtout beaucoup plus fraîche. Il fera de 18 à 23 degrés.